FI.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, les médias occupent une place essentielle dans la société car ils permettent de faire circuler les idées. Les choix éditoriaux de ceux qui les produisent influencent donc notre manière de voir le monde. Alors comment parler d'écologie pour convaincre que la crise que nous traversons est inédite, sans être trop catastrophiste pour ne pas démobiliser, mais sans ignorer non plus qu'il y a des enjeux de pouvoir et d'intérêts économiques à bousculer. Le rapport Presse et Planète en danger de l'UNESCO le démontre, 70% des 900 journalistes environnementaux interrogés dans 129 pays ont été la cible d'attaques, de menaces ou de pressions en 2024. Le nombre de fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux pour minimiser l'ampleur de la dégradation de notre environnement ou discréditer la parole des scientifiques prouve aussi que ceux qui ont intérêt à ce que rien ne change sont bien décidés à utiliser cet outil aidé par l'intelligence artificielle. Dans ce contexte, comment faire les bons choix de sujet, de ton, de format? Nous en parlons tout de suite avec nos invités, tous concernés.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Et il y a du monde aujourd'hui dans le studio 41 de RFI, des journalistes maison, car nous réfléchissons beaucoup à comment communiquer le mieux possible avec vous sur ces sujets. Jean-Marc Four, bonjour.
Bonjour Anne-Cécile, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes le directeur de RFI, à vos côtés Simon Rosé, chef du service environnement de RFI. Bonjour Simon.
Bonjour Anne-Cécile.
Max Ball de RFI Planète Radio, bonjour Max.
Bonjour Anne-Cécile.
Alors vous avez créé Hip-Hop, un réseau de vidéastes amateurs dont nous parlons régulièrement dans C'est pas du vent, vous nous en direz plus dans un instant. À vos côtés, Thomas Wagner, bonjour.
Bonjour.
Fondateur et rédacteur en chef du média bonpote.com, très suivi sur les réseaux sociaux. Et en ligne avec nous depuis Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, Anne-Sophie Novel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste et journaliste, vous travaillez depuis plus de 10 ans sur les médias et l'écologie et vous avez récemment publié « Le monde du journalisme face à l'urgence écologique » aux éditions La Plage. Alors tout d'abord, nous avons un anniversaire à fêter. On ne met pas de musique, tout ça, ni de bougies, ni de gâteaux, mais ce sont les 1 an du service environnement climat de RFI. Alors qui dit anniversaire dit cadeau. Et le cadeau, le voici, selon le tout nouvel observatoire des médias français sur l'écologie. RFI est le média audiovisuel français qui parle le plus d'écologie, avec 9,3% des sujets, des tranches d'informations consacrées à cette thématique. Alors nous en sommes très fiers. Jean-Marc Four, quand vous avez pris la direction de RFI en mai 2023, c'était pour vous une priorité ?
Oui, bien sûr, c'est une évidence. Quand on est un média international au niveau mondial, qu'est-ce qu'il y a comme enjeu plus mondial ou international que les questions d'environnement ou d'écologie ? Il n'y en a pas. En fait, c'est l'enjeu mondial. Après, il y a plein de sujets partout. Quand on traite de géopolitique, je ne vous fais pas la liste des crises sur la planète, mais le sujet mondial, c'est celui-là. Donc,
le premier sujet à solidarité obligatoire, aimait à dire un expert.
Oui, c'est assez juste. Ouais. Et effectivement, ce qui notamment m'a frappé, moi, quand je suis arrivé il y a près de 2 ans, c'est que on avait beaucoup d'initiatives sur la chaîne RFI dans son ensemble, mais un peu disséminées. Pas nécessairement rassemblés en une force collective. Et l'une des particularités, vous savez, de RFI, c'est d'émettre dans 17 langues, dont le français, mais dans 16 autres langues. Et donc, c'est vrai que l'idée qui a présidé à la création de cette équipe que dirige Simon Rosé, c'est aussi d'être dans une perspective, justement, transversale, mondiale, en faisant travailler non seulement les équipes en français, mais aussi les équipes dans d'autres langues, et notamment 2 grosses langues pour RFI, qui sont l'espagnol et le chinois. Et en plus, ça couvre 2 endroits majeurs pour l'enjeu écologique. Ce n'est pas à vous que je vais expliquer ça, qui sont l'Amérique latine, avec notamment le bassin amazonien, et évidemment la Chine. Donc, c'était aussi la volonté de créer une transversalité de travail en intégrant des journalistes, en l'occurrence latino-américains et chinois.
Alors Simon Rosé, ce bon résultat, c'est évidemment dû à la création de ce service environnement climat que vous dirigez, hein, 9 journalistes à plein temps. Alors Jean-Marc Four disait, il y a en effet une journaliste de la rédaction chinoise, un journaliste de la rédaction Amérique latine, mais ce sont aussi des journalistes qui venaient d'autres services, qui se sont portés candidats et qui, à la base, avaient des expertises spécifiques.
Oui, parce qu'auparavant, on avait mis en place un système de référents. Il y a différents services à RFI, il y a un service France, un service international, un service économie, etc. Et on avait mis en place un système de référent où dans chaque service, une personne se spécialisait un peu sur les sujets environnementaux tout en gardant cette casquette d'origine. Et l'idée, là, c'était de mettre en fait un peu tout le monde dans la même pièce, puisque collectivement, on réfléchit mieux. Et ce sont des sujets qui sont tellement vastes, parce qu'environnement, climat, ça veut un peu tout et rien dire. On parle des sols, on parle de science, on parle de diplomatie internationale, on parle de santé, on parle... C'est extrêmement, extrêmement vaste. Et on ne peut pas être généraliste. C'est un sujet où il faut se spécialiser. Donc, il faut avoir ses expertises, ses sources, ses carnets d'adresses, savoir dénicher l'info. Donc, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire en se disant, bah, voilà, pour le dire un peu simplement, on fait du meilleur jus de cerveau tous ensemble dans la même pièce. Voilà.
Et ça sous-entend évidemment de la formation, hein, parce qu'il faut mettre en perspective ce résultat dans un contexte global qui est beaucoup moins réjouissant, puisque toujours, selon l'Observatoire des médias français sur l'écologie, seulement 3,7% du temps d'antenne des programmes d'info des grandes chaînes de télévision et radio ont été consacrés à l'écologie. C'est 30% de moins qu'en 2023. Anne-Sophie Novelle, c'est quand même assez déprimant. Est-ce que selon vous, c'est justement à cause d'un problème de formation ?
C'est totalement déprimant, surtout que on œuvre à l'intérieur de la profession pour essayer de faire bouger les lignes et qu'il y a de nombreuses rédactions qui se sont formées ces derniers mois. Oui, au départ, il y a un problème de formation. Après, les écoles maintenant, depuis 4-5 ans, proposent des spécialités ou des cours en tronc commun pour mieux intégrer ces enjeux. Et puis, entre 2022 et 2024, de nombreuses rédactions ont formé leurs troupes, alors sur une base de volontariat ou de manière plus obligatoire en fonction des rédactions. Donc voilà, ça infuse. Mais c'est vrai que les chiffres de l'Observatoire des médias sur l'écologie restent faibles. Alors on n'a pas d'éléments de comparaison hein, dans leur typologie, et c'est un petit peu dommage, mais ils ont pu le faire sur certaines, comparant par exemple sur le sujet des migrations, où on voit qu'il y a du deux poids, deux mesures. Donc ça c'est pas très satisfaisant quand on voit ça.
Jean-Marc, rapidement.
Deux petites choses très brèves. La première, c'est que quand on dit les médias, ça ne veut rien dire. On est bien d'accord. C'est-à-dire qu'il faut prendre chaque média et avec d'énormes différences sur la couverture des questions comme l'environnement. Effectivement, bon, tant mieux. RFI accorde une large place. On s'en félicite, mais on veut faire encore mieux. Hein. Mais en gros, nos partenaires de l'audiovisuel public sont aussi hauts. Là où certains médias privés sont très bas, c'est-à-dire 1% du temps d'antenne. Voilà. Mmh. Donc les médias, ça ne veut rien dire. C'est chacun a des lignes éditoriales assumées très différentes. Et la deuxième petite chose rapide, c'est que sur la question de la formation, il ne s'agit pas seulement de former les journalistes spécialisés sur les questions d'environnement. L'enjeu majeur, c'est de former les rédacteurs en chef, les rédacteurs en chef adjoints ou rédactrices en chef adjointes et rédactrices en chef et les présentateurs et présentatrices. Parce que le vocabulaire qu'on utilise est majeur sur ces enjeux-là. Donc ce n'est pas juste le papier ou le reportage que va faire le journaliste spécialisé. C'est aussi la façon dont il est présenté et dont il est choisi par la rédaction en chef.
Oui, il faut que ça infuse et que ça se diffuse. Thomas Wagner, dans ce contexte, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer bonpote.com en 2021 ?
Je suis parti du principe que, on le voit encore là, que l'écologie était sous-traitée et maltraitée. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on ne peut pas généraliser tous les médias. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore sous-traité, malheureusement. Il y a certains, après, il va falloir faire des choix sur les angles, etc. On parlait là de transversalité. Effectivement, l'écologie, on peut avoir une équipe dédiée, mais il faut vraiment que toutes les autres équipes s'infusent du sujet. Aujourd'hui, il y a encore trop de journalistes. Je repense à un article des Échos que j'ai vu récemment qui se félicitait de la hausse du trafic aérien. On ne peut pas aujourd'hui écrire un article pareil sans mentionner le changement climatique. Enfin, je veux dire, pour moi, de mon point de vue, c'est une faute professionnelle. Donc, ce que j'essaye de faire avec mon pote, c'est de prendre un sujet, montrer qu'aussi ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps pour se former et ensuite vulgariser. Donc ça peut prendre des semaines de travail et ensuite pouvoir le remettre sur papier entre 5 et 10 minutes de lecture, ça prend beaucoup de temps. Donc il faut aussi que ce temps-là, c'est un luxe. J'essaye de le rappeler. Moi, j'ai le luxe de pouvoir prendre le temps, mais il faut aussi que les équipes et donc les patrons de médias donnent les moyens aux journalistes de pouvoir le faire. Je sais que c'est un sujet sur lequel on a beaucoup échangé avec Anne-Sophie. Voilà.
Oui, parce que c'est écrit sur votre site, hein, que ce sont des articles sourcés, Simon Rosé. Ça, c'est crucial, évidemment, la rigueur.
Ah, évidemment, et d'autant plus dans un média généraliste, j'ai envie de dire, puisque RFI n'est pas un média spécialisé. On fait beaucoup d'environnement et on s'en félicite, mais on ne fait pas que ça. Et heureusement, et je reviens sur la transversalité, il y a des services économie internationaux qui ne traitent pas tous les jours de ces questions, qui n'ont pas évidemment tous le même niveau de connaissance. Et dans un journal de 10 minutes, quand on doit raconter l'histoire du monde, voilà, quelle place on donne aujourd'hui aux questions environnementales, comme Jean-Marc le disait. On voit les crises géopolitiques et tout ça. Donc, il y a un vrai travail de hiérarchie de l'information, de formation des rédacteurs en chef qui vont faire les menus des journaux, avec quoi on va ouvrir, qui est essentiel, parce que le traitement de la crise écologique est assez difficile, que c'est une crise qui est diffuse. C'est une situation qui se dégrade rapidement, de plus en plus rapidement, mais de façon continue. Il va y avoir des crises, il va y avoir des incendies à Los Angeles qui vont être sidérants, mais la vague de chaleur, elle n'envoie pas d'urgent. Elle ne va pas bousculer la hiérarchie des journaux, elle ne va pas faire la une. Et réussir à intégrer ça dans une radio d'actualité généraliste, c'est là où le travail de formation est vraiment très pertinent à mener.
Et ça passe par la conférence de rédaction qui a lieu deux fois par jour, par exemple, à RFI, où avant, ces sujets n'étaient pas forcément récurrents, ils étaient même souvent difficiles à faire émerger. Et là, comme il y a un service, finalement, ça s'impose.
Ils sont incarnés. Ils sont incarnés, mais c'est d'où, c'était un des arguments dans notre plaidoyer pour la création de ce service, c'est d'être représenté en conférence de rédaction, justement pour pouvoir porter ces sujets.
Et c'est vrai que ça irrigue, puisque moi je le vois, ne serait-ce que pour C'est pas du vent, on reçoit de plus en plus de propositions de correspondants qui avant peut-être se retenaient sur ces sujets. Et le fait d'en entendre parler de plus en plus propose des choses et commence à se former aussi à leur niveau. Max Ball, vous avez une autre approche avec Hip Hop que vous avez créée au sein de RFI Planète Radio. Ce n'est pas une approche journalistique au sens traditionnel, j'ai envie de dire du terme. C'est une autre approche. Expliquez-nous.
Bon, écoutez, moi, je pars d'un principe simple, c'est que tout problème auquel les populations sont confrontées, les conséquences peuvent être appréciées au travers de la qualité de vie. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir, au travers de ces médias participatifs comme Hip Hop qu'on a évoqué, qu'on a monté donc avec l'Institut de Recherche pour le Développement, l'IRD, c'était de voir au quotidien comment les populations dans le monde sont affectées et que ça devienne très rapidement un critère d'appréciation de la gravité de la situation. C'est-à-dire qu'on a, ça fait donc maintenant avec Planète Radio depuis 20 ans qu'on travaille sur l'environnement, mais souvent on est cantonné entre des corps scientifiques, des corps diplomatiques, des corps économiques, et que le lien sur les populations est assez rare. Et donc ce monitoring-là sur la dépréciation de la qualité de vie, il est très difficile à obtenir si on n'a pas le soutien des populations locales. D'où l'intérêt de créer Hip Hop, et ce sont ces personnes-là qui, eux, nous adressent les constats.
Donc c'est un réseau de vidéastes amateurs, c'est disponible, il y a un site, c'est d'ailleurs libre de droit, gratuit, tout le monde peut puiser dans ce grand choix de films. Et donc c'est ce que vous appelez, je trouve que l'expression est assez jolie, une banque du ressenti mondial.
Alors c'est un conservatoire. C'est un conservatoire, d'ailleurs ça sera, c'est un projet qu'on a au sein de Planète Radio, c'est l'idée de créer un conservatoire mondial du ressenti, partant d'un principe extrêmement simple, c'est que le ressenti est toujours l'antichambre de l'acte. Exemple très simple, si je n'avais pas aimé venir, j'aurais très bien pu refuser, trouver une excuse quelconque et ne pas être là.
Merci d'être là.
Et merci à toutes les personnes autour de la table. Mais je pense qu'on sous-estime ça, on sous-estime la puissance et la valeur du ressenti. Et dans le futur proche, au vu de la gravité de la situation, de la détérioration environnementale sur la planète, dans quelques années, et peut-être encore moins que ça, on aura besoin de comprendre pourquoi on n'a pas bougé, pourquoi on n'a pas tenu compte. Et donc, c'est important de se dire, pour ne pas réitérer les mêmes erreurs, le ressenti, ça nous permet de voir un petit peu au-delà des conséquences physiques, pourquoi les gens n'ont pas réagi et comment on peut peut-être améliorer la prise en considération des choses, quoi.
Alors, des témoignages sur plein de sujets qui sont ponctuellement mis en perspective par des scientifiques, car la parole des scientifiques est essentielle, mais pas toujours simple, justement, à médiatiser. Nous en parlons dans un instant, mais d'abord, place à la musique avec les Nigérians Asake et Wizkid et leur titre MMS sur RFI.
Ici, le slave thing, yeah, it's all about understanding, bro. You gotta understand what you're doing. You need a direction.
Oh, yeah, no. Oh, yeah. Come and do your love. wish upon a time, wish upon a time. When I just did try, when I just did try. When I drop a song, I go need to dance. I do a kakuru kere, I did pay my price. Then I find the sound among all the sounds. I no get a name, I no sing a sound. Sound, sound, Mr. Money sound. I want the precise, I want the precise.
I be lying, militant, military, military, match up my enemy. Vigilant, vigilant, forgive me, Lord, I be on your knees. Cemetery, cemetery, people, we don't die before cemetery. Life is not easy, I know it's not easy. You guys do the thing I'm easy.
So funny, you poor funny.
MMS, un titre des Nigérians Asake et Wizkid que vous pouvez retrouver comme beaucoup d'autres dans la playlist de RFI, disponible sur toutes les plateformes.
RFI.
Votre génération est à l'origine de tous les fléaux du monde moderne. La mondialisation, hein, l'ultralibéralisme, la pollution, la surexploitation, l'agriculture extensive, les paradis fiscaux, la communication, tout. Vous êtes un conséquent rétrograde bigot, vous votez à droite. En 80 ans, vous avez épuisé la quasi-totalité des espèces vivantes.
Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Historiquement, mais vous êtes la pire génération de l'histoire de l'humanité. Et un malheur volant jamais seul, bah vous vivez hyper vieux.
Nous discutons de comment parler d'écologie dans les médias avec nos invités. L'une des difficultés est que pour expliquer le changement climatique ou la disparition du vivant en cours, eh bien, il faut donner la parole à des scientifiques. Mais la science n'est pas toujours facile à vulgariser. Bonjour Marie-Ève Migueres.
Bonjour Anne-Cécile, bonjour à tous.
Vous êtes justement chargée de projet de médiation scientifique auprès des jeunes et du grand public pour l'IRD, l'Institut de la Recherche pour le Développement. Et vous êtes embarquée depuis le début dans l'aventure hip-hop avec Max Ball, hein, vous connaissez bien, pour créer du dialogue justement entre la science et la société. Alors vous allez plus loin que les capsules vidéo avec les jeunes hip-hoppeurs. Vous organisez des masterclass, des programmes locaux comme par exemple récemment à Madagascar. Et puis vous faites des vidéos qui essayent d'expliquer justement ce qu'il y a scientifiquement dans ces petites capsules vidéo et quelles sont les solutions que l'on peut mettre en place.
En effet, une fois que les jeunes hip-hoppeurs ont appréhendé les enjeux socio-environnementaux à travers la réalisation de leur film, on engage justement la rencontre, le débat avec la communauté scientifique d'une part et puis les autres acteurs du développement en visant justement un développement qui serait plus sain, plus juste, plus durable. Alors on expérimente d'autres formats de films. On a commencé une série qui s'appelle justement « Sous la surface » qui est dédiée au décryptage des enjeux écologiques qui ont été remontés par les jeunes auprès de leurs concitoyens. Il y a beaucoup d'hip-hoppeurs, par exemple, qui nous ont envoyé des vidéos sur la dramatique érosion de toute la bande littorale ouest-africaine, donc qui nous viennent du Sénégal, de Côte d'Ivoire, du Ghana. Et on s'est tourné justement vers un océanographe physicien qui va nous décrypter, nous expliquer quelles sont les causes de ce phénomène. Est-ce que c'est le changement climatique ou au contraire, il appuie sur des causes qui sont plutôt les grandes infrastructures continentales qui ont empêché les plages d'être nourries et qui génèrent justement ces situations dramatiques où on voit des villes entières qui sont arrachées par la mer. Donc ça, c'est un format auquel on est très attaché. C'est justement répondre aux interpellations des citoyens et aux films que les hip-hoppeurs nous ont adressés. C'est un challenge de vulgariser justement les résultats de la recherche.
Et puis, il y a aussi la proposition de solution avec un autre format qui s'appelle « Sur la piste ».
Exactement. On l'a appelé « Sur la piste de solution ». Et là, ce sont des petites équipes d'hip-hoppeurs qui vont aller à la rencontre d'entrepreneurs, de la population qui commencent à mettre en place des solutions face aux problématiques qui sont soulevées. Alors, par exemple, au Cameroun, face à, on va dire, des déchets massifs dans ces grandes villes africaines, eh ben, y a la petite équipe de Serge et de Ariane qui sont allés voir une entreprise qui conçoit du charbon écologique. À Madagascar, on a aussi Olivia et Mamie qui sont allées voir des femmes qui sont planteuses, qui vont reboiser leurs collines, qui ont été rasées de ce palmier du Ravinala, qui est une source précieuse pour les Malgaches. Et puis, au-delà de cette production audiovisuelle, on va quitter les écrans, les ondes pour tout ce qui est live, qui nous tient vraiment à cœur. Et on va justement essayer d'organiser régulièrement des masterclass. Alors, c'est l'occasion pour des jeunes de se rencontrer, de faire réseau et de rencontrer les chercheurs pour travailler plus spécifiquement sur des thématiques. Alors, par exemple, la question des villes durables, la question de la biodiversité. Donc, il y a ces masterclass. Et puis, il y a tout un programme qu'on travaille avec l'équipe de Max. C'est la programmation d'After Pop. Alors, autour des petits films hip-hop, on organise des séances de projection débat. Et ce sont les jeunes donc, qui se font porte-parole de leur communauté qui vont venir présenter leurs films. On va inviter des chercheurs, on va inviter, le maire de la ville, on va inviter un syndicat des pêches, on va inviter tous ces acteurs pour qu'ils se rencontrent, qu'ils problématisent ensemble ces sujets et qu'on réfléchisse, qu'on débatte de solutions qu'on peut mettre en place. Donc on a vraiment ce rôle de médiateur, de se mettre ensemble autour de la question.
Et vous utilisez aussi d'autres formes de communication qui font sortir les scientifiques de leur laboratoire et qui sont complémentaires de l'approche médiatique. Très rapidement, faites du théâtre, de toutes sortes de choses pour que les scientifiques aillent à la rencontre du public.
Oui, à l'IRD, on tient vraiment à cette complémentarité, la combinaison des formes de médiation qui vont donner plus de force, plus d'impact pour faire bouger les lignes. Alors, on fait du théâtre de fiction, on fait du théâtre forum. On peut aussi faire des bandes dessinées, des jeux qui sont plus ou moins sérieux. On peut s'appuyer sur le dessin, sur la photographie. L'idée, c'est de se mettre en émoi, d'engager la réflexion ou même de pratiquer la démarche scientifique. Pour partager ces savoirs de la science, les mettre en pratique, les faire vivre, et pour être au plus près des préoccupations sociétales que la recherche peut aussi saisir pour conduire les recherches et pour accompagner vers des démarches de solutions.
Merci Marie-Ève Migueres pour toutes ces explications. Thomas Wagner, c'est selon la même logique finalement que le CNRS, le Centre français de la recherche scientifique, a fait appel à vous?
Je pense que oui, c'était pour chercher une sorte de complémentarité. Je ne suis pas scientifique de base. En face, bien sûr, enfin, le CNRS avait les scientifiques, n'avait pas forcément le temps ni la compétence pour rendre ces sujets, entre guillemets, sexy.
Et voir, et le CNRS et les scientifiques voyaient aussi, comme nous tous, monter les fausses informations.
Oui, ça a été en fait l'objectif, et ça a été l'objectif de notre livre, ça a été de centraliser toutes les idées reçues et les fake news sur le climat. Et en fait, on a pris chaque fake news les plus importantes, donc il y en a 20 en gros. On a fait un article en face, donc un chapitre de livre in fine, et notre but était d'être mieux placé sur Google et de sortir les articles climato-sceptiques de Google. Et vous pouvez aller regarder normalement aujourd'hui sur les ours polaires, sur les glaciers, sur la montée des eaux. Normalement, et j'ai pas envie de leur faire de pub, mais les sites climato-sceptiques, s'ils m'écoutent, ils vont pas être contents, mais on les a dégagés de la première page. Donc ça, c'est
nous, on est très contents et on vous félicite. Votre livre, ça s'appelle « Tout comprendre ou presse sur le climat ». C'est donc publié aux éditions du CNRS. Alors en effet, vous débunkez des choses, comme on dit, parce que ces fausses informations, elles se répandent partout et c'est extrêmement compliqué d'y faire face.
Ah bah ça prend du temps. Malheureusement, c'est la fameuse loi de Brandolini. Donc pour dire une bêtise, ça prend une seconde. Mais pour expliquer pourquoi c'est une bêtise, ça va vous demander 10 à 100 fois plus d'énergie. Donc typiquement, aujourd'hui, le sujet où il y a le plus de désinformation en France est la voiture électrique. Ça nous a pris un an et demi de construire l'article référence sur Bon Pote sur la voiture électrique pour dire pourquoi c'est mieux qu'une voiture thermique pour le climat sur l'analyse de cycle de vie, donc sur la durée de vie du véhicule. En revanche, voici aussi pourquoi ce n'est pas la solution parfaite au climat, etc. Comment, quelles idées on va pousser, d'autres on va devoir faire l'impasse dessus. Pour résumer tout ça, c'est des choix éditoriaux, etc. Ça prend du temps et voilà. Ouais.
Jean-Marc Four, il y a plusieurs dispositifs au sein de RFI pour lutter contre les fausses informations. C'est vraiment un fléau aujourd'hui.
Oui, bah c'est sûr que les questions climatiques et environnementales sont un des excellents terreaux, si je puis dire, du négationnisme de tout poil ou du dénialisme ou du déni, appelez ça comme vous voulez. Donc oui, c'est un des sujets sur lesquels on est obligé de consacrer de l'énergie pour débunker, ou le vilain mot en français, toutes les fausses informations qui circulent, je suis d'accord. Et en même temps, vous savez, le problème de la lutte contre la désinformation, ça dépasse la question de l'environnement, il y a un piège dedans. C'est-à-dire que si vous consacrez trop d'énergie à lutter contre les fausses informations, c'est autant d'énergie que vous ne consacrez plus à faire de l'information. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que notre temps de travail
n'est pas extensible.
Mmh. Et donc, il faut trouver le point d'équilibre. C'est-à-dire qu'il faut effectivement arriver à désamorcer, à dénouer, à contredire les choses fausse, et en même temps il ne faut pas y passer non plus toute son énergie, parce qu'on doit aussi travailler sur l'information en tant que telle, c'est-à-dire bah oui, l'érosion du littoral, la déforestation, la fonte des glaciers, etc. Vous voyez, donc, et là on a un autre défi d'ailleurs, je fais une association d'idées, qui à mon avis est un défi majeur sur ces questions-là, c'est le risque d'être pris en ciseaux entre le trop abstrait et le trop concret. Le trop abstrait parce qu'on est sur des données scientifiques souvent complexes à interpréter,
rapports,
à décortiquer,
etc.,
des rapports, et donc ça peut paraître très abstrait à l'auditrice ou à l'auditeur. Et le très concret quand il devient angoissant, parce qu'on est dans les catastrophes. C'est-à-dire, bah, on voyait bien, enfin, je vous fais un dessin, des incendies de Los Angeles, aux cyclones, etc. Et donc, à ce moment-là, les effets du réchauffement climatique deviennent angoissants, anxiogènes, et il peut y avoir une fuite, un exode informationnel, c'est la formule consacrée, les gens ne veulent plus écouter parce que c'est too much, quoi. Donc, il y a une espèce de double risque. C'est difficile, là aussi, de garder le bon point d'équilibre pour toucher l'auditeur, l'auditrice.
Même s'il faut faire attention, en effet, vous parliez par exemple des feux de Los Angeles ou des cyclones, ce qui nous fait penser à Mayotte, mais quels sont les liens justement avec la dégradation de l'environnement de façon extrêmement rigoureuse, Simon Rosé? Ça, c'est une obsession du service. D'ailleurs, c'est aussi votre obsession, Thomas Wagner.
Il y a de ça, mais en même temps, j'ai envie de dire, on s'en fiche un peu. Et je fais référence à un article que vous avez publié sur Mon Pote, qui est excellent, où il faut faire appel également au sens social, parce qu'on parle beaucoup de sciences dures, de climatologie, de météorologie, de physique des fluides, d'océanographie. Les sciences sociales, la géographie, la sociologie sont très riches d'enseignements sur la crise climatique actuelle. Et l'article auquel je fais référence, c'est une interview. Il était signé de Magali Regelza, qui est géographe sur Mayotte, sur le distinguo à faire entre catastrophe naturelle et catastrophe sociale. Et en fait, ce n'est pas une catastrophe naturelle, c'est un aléa naturel qui survient, qui devient catastrophe sur les bases d'un substrat social. Mmh. Et c'est toute une dimension sociale qu'il ne faut pas oublier. Et quand on a tendance à s'appuyer sur les sciences. Je veux dire, en tant que journaliste, c'est facile. Des communiqués de presse d'université, on en reçoit 25 par jour. Des grosses publications, on appelle le chercheur, le sujet, il est fait, c'est facile et c'est très intéressant. Mais encore une fois, on n'est pas un média généraliste, on n'est pas Nature, on n'est pas Science. Mmh. Donc il y a le juste milieu à trouver pour... D'un côté, seriner, il y a des faits scientifiques qui sont établis. Le réchauffement climatique est causé par l'homme, par la combustion des énergies fossiles. Ça, il faut le seriner à longueur de papier, à longueur d'antenne. Dès qu'on fait un sujet, quand on parle du réchauffement climatique, on précise qu'il est causé par l'homme. C'est un fait scientifique qui n'est pas attaquable. C'est baqué par la science, comme on dit. Oui. Mais de là à aller trop loin sur les phénomènes super complexes et tout, voilà, il y a un juste milieu à trouver.
Anne-Sophie Novel, est-ce que la désinformation est plus forte dans le domaine de l'écologie que dans d'autres domaines?
En tout cas, elle a trouvé un regain ces derniers mois, comme on n'en avait pas connu, j'ai envie de dire, depuis la COP 15 en 2009, où c'était très actif et ça s'était un peu amoindri. Et là, on voit bien toutes les tractations qu'il y a au niveau des grandes plateformes de réseaux sociaux détenues par des oligarques et qui sont dans une vaste entreprise de propagande. Donc, il faut absolument aujourd'hui s'armer d'un bon esprit critique pour arriver à faire preuve de discernement et justement... Je suis d'accord, hein, notre métier ne consiste pas à faire que du fact-checking, mais on doit, nous, les premiers, savoir débunker les infos et quand même factuellement rappeler ce qu'il en est. Et moi, je suis assez affolée de voir à quel point là, ça a repris de plus belle et surtout que ces libéraux-là veulent enlever toute capacité de vérifier l'information à la source sur les réseaux sociaux.
Thomas Wagner.
Oui, je voudrais rebondir. En fait, je suis entièrement d'accord. Il faut faire attention de ne pas se laisser aspirer par les fake news. Parce que si on passe notre journée à débunker ou démystifier les fake news. Typiquement, si on prend les politiques en France, et notamment le gouvernement, ça lui arrive de balancer des fake news sur l'environnement, on y passe la journée. Donc c'est un choix aussi éditorial de se dire, ok, là on est, enfin voilà, c'est un réflexe qu'on doit avoir, de se dire, ok, là on y va, là on n'y va pas, est-ce qu'on y se consacre du temps, oui ou non, et ne pas se laisser aspirer. C'est ce qu'a fait Trump, et c'est ce que fait à merveille Trump, pardon, qui avait été conseillé par Bannon. Pardon pour l'anglais, c'est fill the hole with shit. Donc lui, il raconte que des conneries toute la journée, jusqu'à 30 fake news par jour. Et en fait, les journalistes couraient après pour dire « Mais attention, c'est faux. » Mais en fait, au final, on ne fait que de parler de Trump et on ne parle pas du reste.
Max Ball ?
Oui, parce qu'il y a aussi deux définitions de la désinformation. Il y a la désinformation volontaire et la volontaire. Si moi, je viens et je vous dis ben, « J'ai plein d'eau dans mon jardin, c'est à cause du changement climatique. » En fait, c'est le voisin qui a fait couler sa baignoire. Donc, mais non, il y a des réalités. Donc, quand c'est volontaire et quand ça ne l'est pas. Et c'est en ça qu'il me semble aussi important pour nourrir le débat de pouvoir disposer d'appréciation de populations locales, enfin, quand je dis locales, c'est d'un point de vue mondial, bien entendu, de partout, de Paris jusqu'à Tombouctou, de savoir comment on perçoit les choses et comment on les définit. Parce que dire qu'on accuse ou qu'on trouve une causalité dans telle problématique, ça ne veut pas dire qu'on accuse volontairement, c'est que ce qu'on ressent, nous, au travers des informations et des savoirs dont on dispose, voilà comment on interprète les choses. Et je pense que les médias comme Hip-Hop, par exemple, c'est un peu ce que j'appelle, moi, des minerais bruts. C'est à partir de là que le monde des médias, donc les journalistes et les chercheurs, doivent travailler en fonction de ces appréciations.
Ça me semble Simon Rosé.
Et sans aller jusqu'à l'infox, la communication également. On le voit, par exemple, avec le secteur pétro-gazier en ce moment, qui fait une offensive depuis 4-5 ans sur toutes les technologies de capture et stockage de carbone qui sont...
Oui, on a vu le même phénomène avec l'hydrogène.
Avec l'hydrogène, où là, on n'est pas dans la fake news, on est vraiment dans des stratégies d'entreprise, de communication, d'envahissement de l'espace public et médiatique en présentant des solutions, où on est sur le registre de l'éco-blanchissement, du greenwashing, avec des solutions qui sont pour le moins... pas prouvé, on va rester gentil. Et d'où on revient sur le besoin de formation également des gens qui vont traiter ces informations, d'avoir le recul nécessaire pour aller chercher la bonne source, pour dire bah, attention, c'est un peu plus compliqué que ça.
Alors justement, quels sont les bons réflexes pour parler efficacement d'écologie dans les médias ? Il faut notamment faire attention à ne pas parler que de climat. C'est vrai que c'est une problématique que l'on a souvent. Alors avec Hip-Hop, vous avez des témoignages sur plein de sujets, puisque vous le disiez, c'est le ressenti. Mais c'est vrai que Simon Rosé, on a tendance quand même, et c'est ce qui ressort aussi de l'Observatoire des médias, à parler plus climat que de dégradation des ressources naturelles ou de disparition de la biodiversité.
La petite anecdote très facile, c'est l'année dernière était une année à trois COP. Il y avait donc le sommet de Rio de 92, créé trois conventions, la convention climat, la convention des Nations Unies sur le climat, celle sur la biodiversité et celle sur la lutte contre la désertification et la restauration des sols. Chacune a une conférence des parties, une COP. Les trois sont tombées la même année, l'an dernier, à quelques semaines d'écart. Il n'y a pas grand monde dans la radio qui le savait quand on a commencé à en parler. Juste pour ça. Mais après, il y a on suit l'agenda politique également. La COP climat mobilise beaucoup plus. Elle est plus simple également à traiter dans le sens où le climat a une métrique. C'est la tonne de carbone. C'est facile à manipuler. On peut compter, on peut la soustraire, on peut l'additionner. Les sols, on va compter quoi ? Les nombres de vers de terre par mètre carré ? Les scientifiques, les décideurs, les négociateurs eux-mêmes,
aller à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification à Riyad, il y a quand même des données très claires sur le fait que 40% des sols sont dégradés aujourd'hui.
Mais comment est-ce qu'on qualifie un sol dégradé ? C'est des choses qui sont beaucoup plus dures à vulgariser que compter des tonnes de carbone.
Voilà, médiatique, Thomas Wagner, vous êtes très axé quand même sur le climat. C'est un choix de départ.
C'est un choix et que j'essaye de diversifier. En fait, j'adore ce que vient de dire Simon, parce que j'essaye d'apporter d'autres angles aussi, pas que de parler climat. Et il y a un sujet typiquement qui me tient à cœur, sur lequel j'ai beaucoup écrit en 2024, c'est les relations et les relations professionnelles, mais les relations aussi amoureuses. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai intitulé un article qui s'appelle « Les relations chauffent dans un climat qui change ». Et je trouve qu'on parle pas assez.
Ah oui, vous avez eu beaucoup de courriers, je crois, notamment.
J'ai eu quelques retours de personnes qui se disent « Oui, effectivement, moi, je suis pas bien au travail parce que je suis en dissonance cognitive » ou « Moi, je suis pas bien au repas de famille parce que ça gueule et que mon oncle ne croit pas au changement climatique » ou « Je suis pas bien avec ma copine ou mon copain parce que moi, j'ai arrêté de prendre l'avion et lui, il veut partir à Bali ce week-end. » Et ça, c'est un sujet, je pense qu'on n'en parle pas assez et ça permet de, une fois qu'on est d'accord, bien sûr, qu'il y a un réchauffement climatique et que ça se réchauffe et que c'est de notre faute, il faut passer à autre chose et trouver d'autres angles et surtout écouter écouter les autres.
Vraiment. Jean-Marc Faure.
À propos de dissonance cognitive, il y en a une à laquelle le journaliste environnement est mécaniquement confronté. Hein. Vous le savez bien d'ailleurs, Anne-Cécile, je crois. C'est d'un côté, il faut documenter sur le terrain ce qui se passe. Qu'on parle de climat, de biodiversité, quel que soit le sujet environnement, et puis c'est le cœur de notre travail. Le journaliste, il doit aller voir sur le terrain ce qui se passe pour relater les faits. Sauf que donc, vous allez prendre l'avion pour y aller.
C'est très compliqué.
Je veux dire, il n'y a pas tellement d'autres solutions dans notre organisation actuelle. Et là, c'est un peu vertigineux. Enfin, pour vous.
Alors, il y a certains journalistes qui sont allés dans des COP ou qui vont faire des reportages en train, mais ça demande beaucoup de temps.
Si vous avez la COP, je ne sais pas, l'an prochain,
moi, je fais trois émissions par semaine, c'est compliqué.
Ou alors, il faudrait prendre tous le bateau un mois avant. Vous voyez. Mais il y a un vrai sujet qui est troublant.
On pourrait peut-être réfléchir à ça pour BLM, un bateau RFI.
C'est ça, on part à moi.
Mais qui est vrai pour le journalisme, mais pour toute la... On ne peut pas s'extraire de la société dans laquelle on vit également. Donc, partant de là, mais oui, il faut documenter. Il y a des réflexions en cours à RFI, on en parle beaucoup dans le service. On vous tiendra au courant dans C'est pas du vent.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Le problème de la transition écologique, on le représente en disant que c'est l'État qui essaye de venir à bout des résistances de la société civile.
Pour nous écrire, c'est pas du vent@rfi.fr.
Mais c'est pas ça en fait. La transition écologique, c'est la société civile qui essaye de venir à bout des résistances de l'État. Ce qu'il faut déverrouiller fondamentalement, c'est l'inertie intellectuelle des gens qui gouvernent.
Parler d'écologie avec rigueur, c'est, vous l'avez compris, dans la ligne éditoriale de RFI, d'autant que nos auditeurs des pays du Sud vivent quotidiennement les conséquences de la dégradation de leur environnement. Je vous propose d'écouter le témoignage de cette femme malgache qui lutte pour la survie de sa famille, confrontée à la sécheresse. Il a été recueilli par Davy Raman Dimbissou, qui a reçu le Grand Prix Hip Hop Plus 2024. Davy répond ensuite aux questions de Caroline Filliette.
Je m'appelle Fenovola. J'ai grandi ici, à Antassa Orona. J'ai aujourd'hui 65 ans, 3 fils et 4 petits-enfants. Je travaille dans la carrière d'Antassa Orania, où l'on extrait du gravier. Cette carrière, c'est notre pain quotidien. Mais elle ne suffit pas pour subvenir à tous nos besoins. L'énergie nous manque, le corps fatigue. Même si c'est difficile, nous devons continuer, car nous n'avons pas le choix. L'argent gagné ici suffit à peine pour se nourrir. Et on ne fait aucun profit. Avant, je cultivais du riz pour nourrir mes 3 enfants. À cette époque, les récoltes étaient abondantes grâce aux pluies régulières et au sol fertile. Mais aujourd'hui, tout a changé. La terre est sèche, craquelée et l'eau vient à manquer. Parfois, nous utilisons des explosifs pour extraire le gravier. Et cette poussière chargée de produits chimiques contamine l'air et l'eau. Nous tombons malades en buvant cette eau polluée. Nous avons souvent la diarrhée et des maladies pulmonaires. Nous ne savons pas quoi faire d'autre. C'est notre seule source de subsistance. Beaucoup d'entre nous souffrent de maladies comme la tuberculose et nous n'avons même pas l'argent pour nous soigner. Parfois, mes fils ramassent des bouteilles dans les ordures pour les revendre et gagner de l'argent pour la famille. Je m'inquiète pour l'avenir face au changement climatique. Cette situation me fait peur.
Bonjour David.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous pour nous parler de ce film qui a remporté le grand prix du concours Hip Hop Plus 2024. Qu'est-ce que ce prix représente pour vous ?
Je suis reconnaissant d'avoir trouvé Hip Hop, qui est un outil qui me permet de publier les faits de nos vies. Une porte ouverte pour faire savoir ce que nous ressentons par rapport aux problèmes environnementaux, pour que le monde entier puisse le voir. Donc pour moi, c'est une bonne occasion de faire une belle réalisation pour le petit court-métrage. Voilà.
Vous semblez, à travers ce film, David, bien informé des problèmes liés à l'environnement à Madagascar. Mais via quels médias vous informez-vous ?
Je suis déjà informé par rapport à l'Internet. À l'Internet, il y a beaucoup de problèmes par rapport à tout ça, mais on ne dit jamais les problèmes d'extraction de gravier, voilà.
Est-ce que l'écologie et l'environnement sont des thématiques suffisamment mises en avant dans les médias malgaches ?
On ne parle pas beaucoup de ce cas-là, mais on parle beaucoup de problèmes environnementaux à la télé, à la radio, tout ça. Ces choses-là sont devenues comme par cœur. Voilà. Il faut reboiser, éviter de faire le feu de gros, tout ça, parce que ça devient un problème très grave chez nous. Et si ça continue, ça va être encore plus pire. Voilà.
Avec ce Grand Prix Hip-Hop Plus 2024, vous avez gagné un accompagnement, je crois, pour réaliser un court-métrage. Avez-vous une idée du sujet que vous allez traiter ?
Je me suis focalisé au problème de déforestation. J'ai deux films à proposer concernant cela. Quels sont les problèmes causés et quelle est la conséquence causée par cela ? Donc, ces deux choses-là que je souhaite réaliser, mais je dois encore savoir avec les équipes d'Hip-Hop lesquelles ils vont choisir et on va le faire ensemble.
Merci beaucoup, David, et bon courage pour ces prochaines réalisations.
Oui, merci beaucoup, je vous en prie.
Macbeth, le travail avec David va commencer très vite.
Semaine prochaine, jeudi exactement, à ouais. 14h.
Voilà, c'est important donc, qu'il y ait un suivi et de donner la parole justement à des personnes comme David pour aller recueillir des témoignages que nous, en tant que journalistes, on aurait peut-être du mal à aller chercher par manque de proximité avec les populations.
Vous me l'enlevez de la bouche, c'est exactement ce que j'allais dire. Non, mais c'est-à-dire que récupérer ce type de sentiment auprès d'une dame âgée en zone côtière de la côte ouest de Madagascar, si on ne parle pas la langue locale et si on ne fait pas partie de façon directe ou indirecte d'une famille de proximité, c'est impossible. Moi, je sais qu'en tant que journaliste, on me répond 90% du temps ce que j'ai envie d'entendre, surtout dans ces pays-là. Donc, cette parole, elle vaut de l'or, et c'est pour ça qu'on faisait référence à ce Conservatoire mondial du ressenti, parce que c'est, on a beau être le meilleur journaliste du monde, c'est impossible d'avoir ça. Et les courts-métrages qui sont réalisés par Hip-Hop, donc ça sera la troisième année, à travers du prix Hip-Hop Plus, ont aussi cette ambition de pouvoir faire des films, des courts-métrages qui soient nourris par cette information de proximité. D'ailleurs, moi, j'ai démarré à RFI parce que pour moi, c'est une radio internationale de proximité.
Alors, Thomas Wagner, pour informer efficacement, il y a ce type de témoignage, mais il faut aussi se confronter aux responsables de la crise écologique. Comment s'y prendre ?
Se confronter aux responsables, vous voulez dire aux politiques ?
Aux politiques, aux entreprises polluantes, à tous ceux qui n'ont pas envie de changer de modèle.
Alors, comment s'y prendre ? Il y a plusieurs moyens, il n'y a pas un moyen, il y en a mille. Hein. Les deux que, pour l'instant, d'après ce que j'ai pu constater dans la littérature scientifique aussi, ce qui est efficace, c'est un, les interpeller, y compris les responsables RSE, c'est ce qui a été fait notamment sur le réseau professionnel. LinkedIn, donc les responsables RSE maintenant répondent, sont en tout cas obligés de répondre, Total, BNP, etc. Et là, la grande nouveauté, ce qui est en train de monter en puissance depuis quelques années, il y a même un rapport annuel qui fait état de ça, c'est les procès qui sont faits auprès des entreprises polluantes. Et ça, ils n'aiment pas du tout ça. On a de la littérature scientifique maintenant qui explique que ça fait perdre, ça fait chuter les cours de bourse. Donc, ils détestent ça. Donc là, il y a plusieurs moyens d'y venir. Évidemment, il faut trouver les sujets. Il y a le devoir de vigilance. Donc, typiquement, pour ne pas la citer, BNP est aujourd'hui mis en examen sur le devoir de vigilance. Mais il n'y a pas que BNP. En fait, toutes les banques et notamment les autres entreprises du CAC 40 pourraient être attaquées là-dessus. Je pense qu'on ne fait pas assez aujourd'hui pour aller chercher les entreprises et les responsables politiques. Et on a besoin d'un vrai. On a besoin de plus de moyens, y compris des citoyens pour ça.
Simon Rosé, on ne l'a pas assez dit, il faut aussi parler des solutions. On a parlé beaucoup des constats de la science, etc. Mais il faut aussi donner envie d'agir.
Oui, je reviens. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont été faites également sur le traitement du réchauffement climatique, du changement climatique, crise climatique, sous l'angle du catastrophisme. Et en plus, à horizon lointain, en 2100, il fera plus 4 degrés, où ça ne marche pas. L'autre écueil qu'on peut avoir, c'est de prendre le catastrophisme pour exemple. Typiquement, on en a beaucoup parlé durant les inondations à Valence, en se disant, c'est la catastrophe, les gens vont se bouger. Ça ne marche pas, c'est pareil. Donc, c'est proposer un narratif. Et là également, c'est la science qui le dit, ce qui est efficace, c'est proposer un narratif. Ce vers quoi on va le rendre désirable. Donc, il y a des solutions qui sont toutes bêtes, qui sont implémentables. On parlait des sols tout à l'heure. L'entretien des sols pour un petit agriculteur africain n'est pas différent que celui d'un agriculteur en France. Donc on peut donner des exemples de cette façon.
Anne-Sophie Novel, chacun d'entre nous peut essayer de prendre de la distance vis-à-vis de l'actualité et nous focaliser sur les vrais défis de notre époque. Et c'est pour faire passer ce message que vous avez réalisé un documentaire et publié Les médias, le monde et nous chez Actes Sud. Rapidement, un conseil Vous n'avez le temps que pour un.
Je crois que cultiver la notion de média-médiateur qui arrive à créer des espaces de conversation est aujourd'hui plus que nécessaire. Voilà, avec une forme d'écoute, on est face à des sujets complexes. Il n'y a pas de solution simple. Donc même si on parle solution, il faut pouvoir rentrer dans cette complexité. Et rien de mieux que d'avoir des médias qui permettent d'avoir le temps de bien le faire et de créer ces sphères de conversation fertiles.
Voilà, des médias médiateurs, Jean-Marc Four, c'est à noter, ça vous inspire?
Oui, je pense que les deux pistes stratégiques, vraiment très brièvement, c'est le petit et le grand. Le petit, c'est l'initiative de type hip-hop, c'est-à-dire aller au plus près de la proximité du lien avec les auditeurs, les auditrices, les gens qui témoignent et qui deviennent des relais du sujet. Et le grand, qui n'est pas totalement exploré, hein, je le signale, c'est le journalisme collaboratif. C'est-à-dire qu'il est très utilisé sur, par exemple, la lutte contre l'évasion fiscale. Vous avez vu ces grandes enquêtes, etc. Mais je pense que sur les questions d'environnement et de climat, on a un vrai travail à faire de journalisme collaboratif avec les grands médias. Voilà, le petit et le grand.
Voilà des chantiers à explorer. Pour vous démontrer que RFI ne fait pas que informer, mais aussi que nous agissons, j'accueille Antoine Bonnet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordinateur du Challenge Up Afrique organisé par France Média Monde avec RFI et France 24. Alors vous avez 1 minute 30, mais bon, c'est toujours ça. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consiste ce concours et comment fait-on pour y participer?
Alors en 1 minute, c'est un défi. Donc le Challenge Up Afrique, c'est un concours qui existe depuis 9 ans maintenant, qui est organisé par RFI France 24. Nous choisissons chaque année une thématique sociétale, environnementale, africaine. Le but, c'est que des porteurs de projets numériques africains francophones nous transmettent leurs idées de projet et un jury d'experts va ensuite désigner le grand vainqueur qui va gagner 15 000 euros, l'exposition médiatique et un carnet d'adresses développé.
Et alors le thème cette année?
C'est l'eau, l'or bleu, donc tous les projets qui font écho à l'accès à l'eau potable, à l'assainissement, à la conservation des mers et océans sont les bienvenus. Ils doivent inclure une dimension numérique et donc pour postuler, il faut se rendre sur le site apafrique.rfi.fr avec 2 P et cliquer sur « Participer ».
Et ben voilà, vous voyez que finalement 1 minute, ça suffit largement. Bon, bien sûr, on reparlera de ce concours dans l'émission puisque nous sommes l'émission qui accompagnons ce concours au-delà de la minute que nous venons de vous accorder. Thomas Wagner, on peut donc vous lire sur bonpote.com et sur tous les réseaux qui vont bien.
C'est ça. Et bientôt, plus sur Twitter, à partir du 20 janvier.
Ah voilà, vous avez pris cette décision à RFI. On y réfléchit. Et votre livre, c'est donc « Tout comprendre ou presque sur le climat », c'est publié aux éditions du CNRS. Anne-Sophie Novel, vous avez aussi une newsletter. Vous êtes très prolixe, vous produisez beaucoup. Novelita, le vivant dans tous ces émois que l'on retrouve aussi sur tous les réseaux qui vont bien. Merci à tous, en tout cas, d'avoir participé à cette émission. On peut aussi voir les films hip-hop. On mettra tous les liens, Caroline Fillette, sur la page de l'émission. Merci d'ailleurs, Caroline, pour la préparation. Merci à François Porcheron pour la réalisation. Et merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à réagir à nos émissions sur les réseaux sociaux ou par mail. cestpasduvent@rfi.fr. Prenez soin de vous, des vôtres et du monde. Et nous nous retrouvons demain, même planète, même heure. Et tout de suite, c'est le journal sur RFI.